Vous écoutez France Culture.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Place de la Toile, le magazine des cultures numériques. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Avant toute chose, permettez-moi, chères auditrices et auditeurs fidèles, mais aussi les infidèles, à Place de la Toile, de vous faire part de mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2014. Donc nous vous souhaitons, Thibaut Henton, je suis sûr, malgré tout, s'associe à moi, ainsi que Vanetta Nadjar et Emmanuel Bozincan, qui est derrière la vitre ce soir, pour vous souhaiter une très bonne année 2014, ainsi que j'imagine peut-être mes invités s'associent pour souhaiter une bonne année 2014 à ses auditeurs. Donc, nous allons malgré tout faire une émission, après ses vœux, au sommaire de laquelle vous trouverez Thibaut Henton, qui s'est plongé cette semaine dans son ordinateur pour répondre à la question « Qu'est-ce qui arrête un mème ?» Thibaut, qu'on retrouvera à la fin de l'émission pour son complément d'enquête. Le son, ce sera Madéon. Quant à nos invités du jour, Nathalie Leboucher et Antoine Picon, pour nous parler des villes intelligentes. Année d'élection municipale, année que nous allons donc inaugurer avec une émission sur les villes. Alors, ce qu'on appelle en anglais les « smart cities », et en français, les smart cities aussi. Mais parfois, on dit ville intelligente, ville donc où les technologies numériques prendraient une place prépondérante dans le but d'y améliorer transport, énergie, rapport des habitants avec leur ville, voire démocratie locale. Alors, je me contente pour le moment de cette définition minimale, car ce sera un des objets de cette émission, de l'affiner, cette définition, mais avec en arrière-plan les questions que j'avoue me poser depuis le moment où j'ai entendu parler de ces smart cities et que je lis de près ou de loin la littérature afférente à cette question. Question par exemple, à quoi ressemblerait vraiment une ville intelligente? De quelle manière l'habiterait-on? Mais de quelle manière aussi se donnerait-elle à voir? En quoi la place prépondérante des technologies instaure-t-elle une relation, par exemple, de dépendance? Est-ce qu'on est dans une utopie futuriste ou dans la conceptualisation un peu marketing d'une réalité de bon sens? Comment tout cela s'inscrit dans une histoire de la ville? Voilà quelques-unes des questions que je me pose et que je poserai donc à mes deux invités. Nathalie Leboucher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez le programme Smart Cities à Orange. Et Antoine Picon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur des ponts, ce sera un petit peu long comme présentation, plus long en tout cas que Nathalie Leboucher. Vous êtes architecte, vous êtes ingénieur des ponts et chaussées, vous êtes historien de l'architecture, vous enseignez à l'école des ponts et chaussées et à Harvard. Et alors vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, mais je crois que c'est le dernier d'ailleurs.
Oui, c'est le dernier.
Un petit essai qui est paru chez B2 et qui s'intitule « Smart City, critique d'un idéal auto-réalisateur ». Commençons, s'il vous plaît, l'un et l'autre, par des questions, avant même qu'elles soient définitionnelles, un peu généalogiques. Je vais me poser la question toute bête de savoir quand est-ce qu'on avait commencé à parler. Alors, je ne vous demande pas la première occurrence, j'imagine que vous ne l'avez pas en tête ni l'un ni l'autre, mais quand est-ce qu'on a commencé à parler, quand est-ce qu'est née cette notion de ville intelligente, de smart cities? Est-ce que vous pourriez le situer, ou Antoine Picon?
Oh, moi je pense que ça fait à peu près 8-10 ans. C'est vraiment au moment où la culture numérique a pris son essor. Je dirais, c'est à peu près concomitant avec le fait que nos téléphones ont commencé à devenir un peu intelligents.
Et ah, c'est coup, le téléphone, vous pensez?
C'est pas seulement le téléphone, mais disons que le numérique a commencé réellement à envahir le quotidien. Il avait déjà envahi les systèmes, etc. Et du coup, on s'est posé la question, finalement, quel est le lien? Je crois que la Smart City, c'est très lié à la question du lien entre le citoyen, l'habitant des villes, et la ville comme ensemble de systèmes techniques, politiques, etc. Donc, c'est, je dirais, au cours de la décennie qui vient de s'écouler.
Et Nathalie Leboucher, juste par exemple, le programme Smart Cities d'Orange, il a été créé quand?
Alors nous, notre programme a été créé il y a 2 ans et demi, et c'est vrai que ça s'est accéléré dans ces dernières années. C'est tout à fait exact que c'est né il y a à peu près 8-10 ans avec la révolution de l'Internet, finalement, qui est une révolution qui va ajouter une couche aux révolutions industrielles qu'on a connues sur les secteurs traditionnels de la ville au 19e et 20e siècle. Donc, ce qu'on va faire dans la ville intelligente, ça va être de dire, finalement, tous ces secteurs qui se sont développés fin du 19e, début du 20e, qui ont structuré nos villes, les adductions d'eau, les systèmes d'électricité, les systèmes de transport, l'apparition de la voiture dans la ville. Tous ces systèmes-là, finalement, avec cette couche de numérique, ces réseaux télécoms, cette informatique, on va pouvoir effectivement optimiser ces systèmes-là et offrir de nouveaux services. Et vous avez tout à fait raison de dire, Antoine Picon, que c'est l'arrivée du smartphone, vraiment, et son décollage depuis quelques années, qui a complètement transformé le paysage. Aujourd'hui, en France, on a 60% à peu près de gens qui détiennent un smartphone. Voilà. Et des usagers qui souhaitent être de plus en plus hyper connectés. Et quand je dis hyper connectés, ce n'est pas seulement les jeunes générations. Nous avons tous pris l'habitude maintenant d'être hyper connectés chez nous, au travail, mais également dans les transports.
Alors, qu'est-ce que ça désigne, les villes intelligentes ? Vous avez commencé à répondre à la question d'Nathalie Le Boucher, voilà, en disant c'est superposé, ou il faudrait superposer, ce qui n'est pas exactement la même chose d'ailleurs, une couche informationnelle, disons, à des services déjà existants, transport, eau par exemple, Antoine Picon.
Je crois que la première chose, c'est une ville où on a suffisamment de capteurs, de puces, etc., pour savoir ce qui se passe. Et ça, je crois que c'est ce qui se passe depuis des micro-occurrences, les consommations de compteurs, les problèmes d'embouteillage, l'état dans les différents réseaux techniques. On a tout ça et on est capable de faire remonter cette information. C'est une ville dans laquelle, finalement, on a toute une série de moyens de savoir, parfois de façon très, très locale, parfois de façon plus générale, ce qui se passe. Alors, ça va donc des systèmes techniques, mais aussi, bon, on sait bien qu'avec la géolocalisation, on peut savoir en temps réel où sont les gens. Donc je dirais, il y a déjà cette couche. C'est une ville qui devient en quelque sorte sensible, et de plus en plus sensible. Et ça, je crois que c'est peut-être la dimension première. C'est-à-dire là où on avait un tissu, finalement, bien sûr, de pierre, de béton et d'êtres vivants, là, on a cette couche informationnelle qui pénètre partout, s'insinue partout et envoie des messages.
Donc ça, c'est la première couche, donc informationnelle au sens strict du terme, qui donne des informations.
Qui donne des informations, ouais. Absolument.
Et la seconde, ce serait quoi
L'autre étape, c'est de traiter ces données, éventuellement de regarder entre les secteurs comment ces données peuvent être utilisées, comment on peut faire ce qu'on appelle du data mining, et puis surtout après de restituer cette information. Et c'est pour ça que le smartphone est clé, parce que c'est l'outil du citoyen. La restituer aux citoyens. Alors, au service de la ville, bien sûr, mais également dans certains cas aux citoyens, par exemple, lorsque vous avez en temps réel l'arrivée des bus, ça veut bien dire que derrière tout ça, il y a tout un système d'information et que sur votre smartphone, vous allez récupérer l'information sur l'arrivée du prochain bus.
Pour avoir peut-être une vision un peu moins... Parce qu'il y a du positif et puis il y a des choses plus compliquées. C'est-à-dire que je crois que cette quantité énorme d'informations, c'est devenu finalement le nerf de la guerre ou le sang. C'est ce dont tout le monde veut s'emparer. Le citoyen, bien sûr, le veut, mais les entreprises le veulent. Bon, on sait bien que Facebook et autres grandes entreprises, c'est quand même des choses pour ratisser de l'information. Les administrations sont intéressées par ça, les politiques, etc. Donc, la question immédiatement du traitement, ça devient une question sociale et politique. Qui a accès à quelle information et sous quelle forme ?
Mais d'ailleurs, c'est une question, puisque vous la posez maintenant, mais évidemment, moi, qui me venait à l'esprit, c'est la question de qui a accès à ces informations, donc de l'open data, ce qu'on appelle l'open data, c'est-à-dire l'ouverture de l'information. Qui les a, ces informations ? Est-ce qu'elles sont ouvertes ? Comment on imagine ces systèmes d'information ? C'est exactement la question que pose Antoine Picon. C'est-à-dire que, est-ce que c'est que le citoyen, comment il le restitue ? Est-ce qu'il a accès aux bases de données ou simplement à des informations qui sont restituées par des plateformes organisées, etc. Enfin, c'est pas du tout le même
schéma. Je dirais que la grande question, c'est pas la question de la masse de données. C'est la question d'être sûr que ces données sont anonymisées. Parce qu'un service électrique sache effectivement la consommation globale en agrégeant des données, c'est tout à fait normal. Ça permet aux services, aux sociétés d'électricité d'optimiser leur équilibre demande-offre, par exemple. Le gros problème, c'est l'anonymisation de ces données qui doit être faite immédiatement. Chez nous, et nous souhaitons nous différencier d'un certain nombre d'acteurs que vous venez de mentionner, on travaille en permanence avec la CNIL, qui est donc l'autorité qui est extrêmement vigilante,
la Commission nationale informatique
et liberté, qui est extrêmement vigilante en France sur le traitement des données. Donc, chacun de nos process, lorsque nous travaillons sur des solutions...
Sont évalués par la CNIL ?
Sont tout à fait, sont suivis par la CNIL. Et vous imaginez bien qu'Orange, en tant qu'opérateur télécom, dans un monde extrêmement concurrentiel, notre capital confiance au niveau de nos usagers est essentiel. Donc, je peux vous assurer que s'il y a bien un sujet sur lequel nous sommes très vigilants, c'est la protection des données. Et d'ailleurs, notre président, tout récemment, début novembre, dans le dernier show qu'il a présenté de nos innovations, parce que c'est quand même important de noter que les entreprises françaises innovent, et investissent dans l'innovation, a bien expliqué qu'il a pris des engagements très précis de protection des données personnelles vis-à-vis de ses clients.
Nous le croyons, Nathalie Leboucher.
Voilà.
Couche informationnelle, après vous disiez agréger ces données, faire du data mining, etc. Mais quel est le but de tout ça?
Je pense qu'il y a plusieurs problèmes parce que agréger, ça ne suffit pas. Il faut aussi représenter les données d'une façon qui soit compréhensible. C'est-à-dire, si on vous donne un immense listing d'une base de données, souvent, vous n'allez pas savoir ce que ça représente. Je dirais, il y a un enjeu qui est tout à fait clé aussi, qui est finalement de représenter les données sous une forme qui les rende compréhensibles. Et ça aussi, ça explique par exemple dans le livre, j'insiste assez longuement sur les enjeux de représentation et de cartographie. C'est-à-dire, je pense, rendre visible l'information et sous quelle forme, dessiner des interfaces, etc., c'est aussi crucial. Je suis peut-être un peu moins convaincu, enfin, je ne mets nullement en doute le sentiment d'éthique d'Orange, mais je pense qu'on va de toute façon vers des problèmes CNIL ou pas CNIL. C'est-à-dire que.
Ça, malheureusement, la CNIL, elle rend des avis, etc.
C'est irrésistible. Si vous voulez, toutes ces données sont. C'est irrésistible d'avoir ces données. Et le numérique va vers quand même le fait de savoir de plus en plus ce que font les choses en détail. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on anonymise. Mais bon, vos fichiers clients ne sont pas anonymisés. Il faut bien faire payer les gens.
Je vais vous donner un exemple concret pour vous montrer comment on travaille. Il y a un certain nombre de projets sur lesquels on utilise les données des réseaux mobiles. Je donnais un exemple et je dirais que c'est au bénéfice quand même de la collectivité. Lorsque vous avez des gens qui circulent sur une autoroute, bon, en général, ils ont un téléphone à côté d'eux. Effectivement, il y a des données du réseau mobile qui font qu'on sait sur l'autoroute combien il y a de personnes et à quelle vitesse elles avancent. Donc, on peut en déduire un trafic autoroutier et donc prévenir une congestion et donc ensuite qui va être mise à disponibilité des conducteurs par des panneaux à messages variables ou sur une information radio, par exemple. Bon, donc ça, c'est très utile. Ça ne met en danger la vie de personne puisque c'est totalement anonymisé dès le départ. Personne ne sait qui est sur l'autoroute. Je vous donne un second exemple qui effectivement, moi, me paraît très parlant aussi. La semaine dernière, par exemple, au Salon des Maires, nous avons signé avec l'ensemble des agences de tourisme françaises un accord cadre. Pourquoi ? Parce qu'elles sont intéressées de mieux gérer leur politique de tourisme et de savoir quels sont les touristes qui sont sur leur territoire, combien de temps ils restent, dans quels endroits ils vont, etc. Et bien là encore, vous anonymisez totalement les données et vous fournissez des indicateurs qui sont clés pour améliorer effectivement l'attractivité touristique d'une ville. Donc il y a un bénéfice.
C'est dommage
commun.
Qu'on anonymise, parce qu'on aimerait savoir ce que font les Chinois, est-ce que c'est de la même manière exactement que les Japonais, des Américains.
On anonymise, par contre, on sait quels sont les types de population.
On anonymise jamais complètement.
Ça va être anonymisé, on parle d'une personne. Ouais. On sait par exemple s'il y a beaucoup de Chinois qui visitent Marseille à telle époque.
Il y a des hackers qui se sont fait maintenant une spécialité d'être capable de reconstituer à partir justement de données anonymisées. Des profils des fois, mais je dis qu'on vient pas que ces applications sont utiles et de toute façon je crois qu'on n'a pas le choix, mais ce qu'il faut savoir simplement c'est que la ville intelligente pose de toute façon des problèmes
dont effectivement la question de l'anonymisation des données, même si tout le monde fait des efforts, enfin, en tout cas les grandes entreprises qui sont impliquées.
Mais je pense que l'accès et la représentation qu'on a des données, c'est tout aussi crucial.
Mais donc je repose ma question, le but ultime de ça c'est quoi? Le but ultime d'une ville intelligente, c'est quoi? Est-ce que c'est consommer moins, que le citoyen soit heureux dans sa ville, qu'il ait des informations sur sa ville, ce qui parfois est un peu vain?
Je crois qu'il y a plusieurs buts. Le premier, c'est quand même un but presque, je dirais, technique, c'est que ça fonctionne mieux. C'est de faire fonctionner plus efficacement les systèmes urbains. Évidemment, un corollaire immédiat, c'est qu'en ces temps de questions liées au développement durable, etc., améliorer cette efficacité devient une priorité sur pas mal de fronts, y compris donc, le front environnemental. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a l'idée quand même d'améliorer le quotidien. Et puis enfin, je crois qu'il y a quand même des espoirs un peu de participation plus grande des citoyens à la vie démocratique de la cité. Je crois qu'il y a toutes ces choses-là. Je dirais en résumé, bon, il y a une espèce de grande dichotomie. D'un côté, je dirais, il y a un désir presque un peu néo-cybernétique de faire tout fonctionner un peu mieux à la façon d'une vaste machine. Et puis de l'autre côté, il y a quand même l'idée qu'on irait vers une plus grande spontanéité de la vie collective, etc. Et c'est vrai que, bon, il y a ces deux aspects sont souvent difficiles à démêler.
Vous êtes d'accord avec ça, Nathalie Leboucher ?
Oui, oui, j'abonde tout à fait dans ce sens-là. Je vais vous donner des exemples concrets. Quand vous travaillez avec la ville de Bordeaux, par exemple, qui souhaite avoir une application unique de sa ville pour mieux informer et communiquer avec ses citoyens.
Donc ça veut dire que chaque citoyen qui télécharge cette application a sur son téléphone portable des informations qui lui arrivent.
C'est une application qui va s'appeler Bordeaux en poche et qui va être prête à la fin de ce premier trimestre, donc 2014, et qui va fournir des informations sur les transports dans la ville, sur les loisirs dans la ville et également sur tous les services administratifs.
C'est quoi ? C'est une sorte de journal municipal en temps réel ?
Alors, c'est mieux que ça. C'est une application vraiment mobile, interactive. Et vous voyez aussi de plus en plus se développer des applications où le citoyen devient acteur et où, par exemple, va dire bah, « Tiens, là, dans la ville, il y aurait ça. J'ai remarqué, il y a ça à améliorer. » Des applications de type Fix My Street.
Donc, il y a un trou dans ma rue.
Également pour l'accès aux handicapés, vous avez effectivement une application comme ça en Espagne qui permet de remonter l'information en disant bah là, effectivement, il y a un problème, il faut régler ça. Donc, cet aspect d'interactivité et de participation des citoyens, il est crucial. Il y a l'aspect, effectivement, d'optimisation des moyens de la ville. On est dans des villes, en tout cas en Europe, qui ont des contraintes budgétaires de plus en plus fortes. Et donc, l'idée, c'est toujours d'essayer de faire mieux avec moins.
En même temps, ça coûte extrêmement cher d'intelligentiser, de rendre intelligente sa ville.
Ça coûte cher. Pour l'instant, on fait quand même le pari que ça coûtera moins cher quand même qu'une ville qui gaspille plus, etc. Il y a ce pari-là. Je crois que ce qu'on ne sait pas très bien, effectivement, c'est... Je crois qu'une des questions, ça va être de plus en plus où s'arrête-t-on. J'ai un collègue américain du laboratoire Sensible du Massachusetts Institute of Technology qui a fait justement une expérience assez intéressante consistant un peu à tracer le cheminement des ordures à partir de quelques cas dans la ville de Seattle. Mais bon, on se rend bien compte qu'on ne va pas coller des puces à toutes les ordures qu'on jette à la poubelle et donc on ne va pas tout tracer dans la ville. Donc où s'arrête-t-on ? C'est à la fois une question finalement technique, une question de coût et puis une question de démocratie aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus... Donc ça, c'est une des questions.
Peut-être la question avant de savoir où on s'arrête, peut-être la question de savoir où on commence. Est-ce que ça intéresse vraiment les villes ?
Ah oui, je crois que si Orange a un département, je crois que ça intéresse. La Caisse des dépôts est aussi très active. Tous les gros partenaires aujourd'hui, Cisco, IBM, sont très très investis là-dedans.
Oui, que Cisco, IBM ou Orange sont investis, oui, mais les
La Caisse des dépôts.
Moi, pour avoir été également conseillère municipale, je pense qu'il faut quand même faire confiance au bon sens.
Vous ne pouvez pas dire où c'était ?
C'était en banlieue sud de Paris. D'accord. Une belle ville en banlieue sud de Paris. Entre 2001 et 2008. Il faut également faire confiance aux élus. Les élus ont un budget à gérer. Ils sont redevables devant leurs citoyens de cette gestion du budget. Ils ne font pas ces projets-là s'il n'y a pas un retour sur investissement. Donc le retour sur investissement, effectivement, il peut être dans un certain nombre d'économies que va faire la ville. Et il peut être aussi dans l'idée de financer des services qui sont utiles aux citoyens. Donc, quand vous financez un certain nombre de services qui vont faciliter la vie, notamment par exemple dans les transports publics, vous allez avoir un effet vertueux, vous allez quand même inciter les gens à emprunter de plus en plus les transports publics. Quand nous, par exemple, on installe le Wi-Fi à bord des bus, à bord des trains, c'est aussi pour faire qu'ils se différencient par rapport à du transport individuel, par exemple. Donc là, vous allez effectivement rendre la vie plus agréable, la faciliter. Et je crois que c'est quand même un des rôles principaux des élus d'une ville que de faciliter la vie de leurs concitoyens. Quand on voit que la congestion est un des premiers soucis dans tous les sondages.
La congestion, c'est bien les encombrements de voitures, c'est pas autre chose.
La congestion dans tous les sens du terme, c'est-à-dire la congestion par rapport au transport, qu'il soit individuel ou qu'il soit collectif. Donc le fait de pouvoir reporter un certain nombre de trajets sur les transports collectifs est tout de même une bonne mesure. L'autre aspect, c'est aussi l'attractivité des villes, parce qu'il ne faut pas oublier que en France, on est quand même en compétition globale. Nos belles villes françaises sont en compétition avec des villes américaines, d'autres villes européennes, pour attirer les entreprises, pour attirer les salariés.
Et Nathalie Leboucher et d'ailleurs Antoine Picon, ça existe une ville intelligente déjà aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a des villes dont on peut dire elles correspondent à la définition qu'on se donnerait d'une ville intelligente ?
Je crois qu'on vit déjà d'une certaine façon dans les villes intelligentes. À Paris, on peut par exemple, les arbres ont tous des puces qui permettent de savoir, de les suivre.
Suivre un arbre, mais à quoi sert de suivre un arbre, Antoine Picon ?
Ça permet de mieux gérer gérer, par exemple, le patrimoine biologique de la ville de D'accord. Paris. Les compteurs d'eau sont aussi télé-relevés. Enfin, vous avez la circulation est quand même. Il y a tout un monitoring de la circulation. Je dirais, on vit déjà pour partie dans des villes intelligentes. La ville intelligente, on l'a aussi dit, c'est déjà les smartphones aussi. Donc, on est déjà en partie dedans. Je crois que la vraie question, c'est un peu quelle forme va-t-on donner, vers où va-t-on en termes de projet. Parce que là où je c'est pense que le discours des élus est toujours un peu ambigu, c'est qu'il y a toujours aussi une vision derrière et un projet. Donc il y a des aspects aussi un peu de vision, c'est-à-dire que c'est toujours aussi un pari sur l'avenir. La ville de Nice, par exemple, s'est lancée dans toute une série d'expérimentations avec leur projet de boulevard intelligent avec Cisco, dans lequel on va collecter à la fois des données environnementales, des données de trafic. Parce que l'une des autres questions, quand même aussi, c'est comment on va intégrer, parce qu'on va avoir de plus en plus de données, alors bon, le fameux big data, mais l'une des questions, c'est qu'en fait-on et comment les intègre-t-on et comment les relie-t-on les unes avec les autres. Par exemple, comment on va relier les données sur le trafic, les données environnementales, etc.
Et surtout, ça me pose une question.
Et ça pose des questions de modèle. C'est-à-dire comment on modélise ça?
C'est intéressant parce que vous le posez au niveau de la question de modèle. Moi, je me pose tout bêtement, par exemple, au niveau des gens dans les services. Est-ce que ça ne nécessite pas aussi que des gens, changer la population des services?
Tout le monde doit changer avec le numérique. Je crois que ça nécessite aussi que l'usager change. Parce que moi, ce qui me frappe quand même beaucoup aujourd'hui, c'est qu'avec les nouveaux renseignements que vous avez sur votre téléphone, vous avez à faire de plus en plus de choix, même en matière de transport. Autrefois, vous disiez, je prends le métro, ou je prends la voiture. Aujourd'hui, vous pouvez combiner un bout de métro avec un bout de voiture. Ensuite, vous allez prendre un Vélib. Et en fait, il faut être un usager beaucoup plus souple et flexible dans une ville dans laquelle vous avez plus d'informations. Et ça, c'est aussi compliqué,
Nathalie Leboucher, vous avez tout à fait raison, mais sur la question, parce que vous qui travaillez donc avec des municipalités, qu'est-ce qu'elle vous dit sur le fonctionnement de leurs services? Qu'est-ce qu'il faut modifier? Quelles mesures vous devez prendre en compte aussi ça,
Alors, effectivement, au niveau des villes, mais on travaille aussi avec les grands acteurs de la ville, c'est-à-dire les EDF, les Veolia, les SNCF. Quand vous travaillez avec tous ces acteurs-là, effectivement, vous avez des sujets de modification de la gouvernance, parce que la ville intelligente, c'est finalement essayer de se faire parler entre eux un certain nombre de secteurs qui avant étaient parfois dans des silos. Donc on observe qu'effectivement de nombreuses villes se sont dotées à un niveau transverse de responsables de la stratégie numérique, par exemple, qui vont essayer de faire parler entre eux un certain nombre de services. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand vous traitez les modes de paiement de la cantine, de la bibliothèque, de la crèche, donc tout ça, c'est des sujets très concrets. Ouais. Quand vous êtes un citoyen, vous vous retrouvez parfois à rédiger pas loin de 10 chèques ou cartes bleues sur Internet par mois. Moi, je l'ai vécu, j'ai 3 enfants, donc c'est très concret. Et l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de dire, est-ce qu'on ne peut pas réduire les coûts et optimiser les moyens de paiement? Et par exemple, ça, c'est un sujet sur lequel on a travaillé, sur cette idée d'avoir des plateformes numériques qui permettent de payer en un même endroit tous ces services-là. Donc, c'est essayer d'uniformiser. Vous avez des villes qui ont adopté ce qu'elles appellent la carte de la ville, la carte citoyenne, avec laquelle vous allez pouvoir payer. Donc, soit c'est des cartes NFC, soit c'est directement un mobile NFC. Donc, NFC, Near Field Communication, donc communication en champ proche. Donc, c'est ces nouvelles technologies qui vous permettent, avec votre téléphone, soit de passer une barrière de contrôle d'accès, soit d'effectuer également des paiements.
Et pour la personne qui n'a pas de téléphone?
Alors justement, vous avez une carte, vous avez une petite carte.
Imagine aussi des choses qui fonctionnent avec d'autres objets que le smartphone.
Prenez l'exemple très concret de Navigo. Aujourd'hui, vous avez déjà Navigo. Demain, effectivement, vous pouvez passer Navigo également sur le téléphone. Mais on voit beaucoup d'agglomérations qui s'intéressent à ça. Vous avez aussi la région Rhône-Alpes qui va essayer d'uniformiser les modes de paiement de transport. Vous avez également la ville de Strasbourg qui a commencé à dématérialiser ses tickets de transport. Ouais. Donc l'idée, c'est quand même toute la billettique, ou la e-billettique si vous préférez encore. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, est-ce qu'à terme, au niveau de la France, on arrivera à avoir une application billettique qui fera que, qu'on habite Paris, Lyon, Marseille, etc., on aura tout sur une même carte ou sur un même téléphone. On n'aura pas à prendre un billet de métro d'une ville.
Que faites-vous de ces magnifiques particularismes locaux qui sont que les tickets n'ont pas la même forme, les mêmes couleurs selon les villes?
Je pense qu'il se reclara des différences. La carte Navigo, ce n'est pas le Pass Oyster de Londres.
Il faudra passer à l'échelle nationale pour retrouver ces particularités?
Non, pas forcément, parce que les villes ont des stratégies aussi assez différentes parfois par rapport au numérique.
Donc, oui, et puis je crois que bon, on a la chance nous d'avoir des villes qui ont quand même des marques de fabrique, qui ont des beaux monuments, etc. Je ne sais pas si le ticket de métro est le plus emblématique, mais si vous prenez un pays comme les Pays-Bas, ils ont réussi à faciliter la vie des gens puisque vous prenez un même ticket partout dans le pays. Donc c'est quand même beaucoup plus simple.
Nous allons poursuivre notre conversation dans quelques instants, mais tout de suite Thibaut Henton pour sa chronique qui s'est plongé dans son ordinateur cette semaine pour répondre à la question « Mais qu'est-ce qui arrête un mème ?»
Qu'est-ce qui arrête un mème ? Qu'est-ce qui arrête un phénomène viral, un objet, une image, une personne, une posture, reprise et détournée ad nauseam sur les réseaux ? Quelles sont les limites du mème, donc ? Et je ne parle pas de limites intellectuelles de ces objets-là. Hein. Je conviens aisément de l'intérêt quasi nul d'un Chuck Norris juché sur un Ian Lolcat dansant Gangnam Style. Pour une liste de ces mèmes, confère Wikipédia, liste de phénomènes Internet. C'est pas facile d'arrêter un mème. Des chercheurs de l'Université d'Ottawa ont ainsi appliqué un modèle mathématique habituellement utilisé en épidémiologie pour évaluer la viralité de Justin Bieber. Conclusion, le virus Bieber est extrêmement violent, plus contagieux que la rougeole, et la fièvre particulièrement persistante. Un moyen de l'endiguer, soumettre la personne infectée à un flux continu de commentaires négatifs. Seulement, ce n'est pas si simple, car ce flux peut déclencher en réaction une contre-salve de commentaires positifs des fidèles de l'icône, plus motivés que jamais. Bon, mais Bieber, c'est déjà un peu vieux, on est en 2014. Hein. Même si on peut aussi faire la préhistoire de la viralité au 19e siècle, comme est en train de le faire le Infectious Texts Project, avec les textes d'avant la guerre de sécession aux États-Unis. Mais prenons un mème plus récent, comme le Harlem Shake. J'ai pas trop suivi cette histoire, donc il faut que je regarde quelques trucs. À la base, une musique d'un DJ sortie en 2012, puis une première vidéo postée par un groupe de Japonais qui danse dans un espace contigu en se désarticulant. Mais décrire cette danse, c'est déjà trop en fait. C'est un piège. Et d'ailleurs, le genre de cette musique relèverait de la trap music, piège en anglais. Donc, mieux vaut ne pas la décrire, quand bien même le nom de Harlem Shake renverrait à un style de danse né à Harlem au début des années 80. Cette vidéo de Japonais est immédiatement suivie d'une autre vidéo, d'Australien cette fois, laquelle sera déterminante parce qu'elle établit la scénographie qui deviendra virale, non pas la chorégraphie donc, qui n'existe pas vraiment, mais la scénographie, c'est-à-dire une vidéo courte, 30 secondes environ, en deux parties, avec d'abord une personne, déguisée ou masquée, qui contamine ensuite le reste de son entourage, collègues, amis, etc., selon le lieu plus ou moins inattendu où le chaos s'installe. Du coup, je me pose la question. Comment arrêter un mème qui vise lui-même à considérer sa dimension politique, à arrêter la marche habituelle du monde ? Je finis de lire la page wiki si bien renseignée, comme d'habitude sur ce genre de phénomène. Je vais voir dans l'historique des modifications de la page et je dis merci à Lomita, surtout, qui a le plus contribué en l'occurrence. Et je relève simplement cette phrase reprise au Nouvel Obs. Ces personnes qui dansent, vivent-elles toutes isolées dans un monde qui leur est propre ? Que dire de ceux qui sont déjà à l'isolement ? Eh bien, non. Même les murs de la prison n'ont pas pu arrêter le Harlem Shake. Comme naguère, Gangnam Style dans une prison des Philippines, sauf qu'en l'occurrence, c'était carrément organisé par le directeur du lieu. Là, c'était au début du mois de décembre, l'an dernier, dans une prison de la Meuse, la prison de Montmédy, où des prisonniers, bonne année à eux, ont dansé le Harlem Shake, vidéo qui s'est ensuite retrouvée sur les réseaux. J'écris à un vieil ami qui connaît bien les prisons françaises. Sa réponse, à propos de Montmédy, c'est une tôle, quoi. Il y a des gars seulement, il me semble. Et c'est plutôt petit et moche. Petit, moche, emmuré, mais pas suffisamment pour empêcher une certaine culture d'y circuler. Rien n'arrête un mème.
Can dance like there's no tomorrow.
Merci Thibault, on vous retrouve en fin d'émission pour votre complément d'enquête. Et là, ce qu'on écoute, c'est Madeon. C'est un très jeune musicien électronique français qu'on a déjà entendu plusieurs fois ici dans l'émission. Le morceau s'appelle The City, titre de circonstance donc. Il est sorti en 2012 et il fait partie des bandes originales du jeu Need for Speed Most Wanted. Can't seem to find my way, but I can see a bright light calling through the dark night, hoping I'll find my way. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile, le magazine des cultures numériques, où pour cette première émission de l'année, année d'élection municipale, nous nous intéressons à la ville intelligente avec Nathalie Leboucher et Antoine Picon. Je voudrais, bon, on a compris globalement quels étaient les objectifs poursuivis par la ville intelligente, mais j'aimerais savoir si... En filant un peu ce que vous avez dit tout à l'heure l'un et l'autre, que la ville était déjà en partie une ville intelligente, et nous demander ce que ça a déjà changé dans la manière dont nous vivons la ville. Et il me semble que paradoxalement, mais je ne sais pas si vous serez d'accord l'un et l'autre, ce soit moins notre rapport à l'espace qu'aient changé les villes qui commencent à être des villes intelligentes, qu'un rapport au temps. Parce que finalement tout ça, est-ce que ce n'est pas le temps réel au fond, qui est la nouvelle manière d'habiter la ville? Antoine Picon.
Oui et non, réponse typique de chercheur. Je dirais oui en ce sens que je crois qu'une des conséquences les plus immédiates de la ville intelligente, c'est de rendre la ville lisible en termes d'événements. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes à l'arrêt de bus, pour reprendre un exemple qui a été donné tout à l'heure, et vous savez que dans 7 minutes, version optimiste, le bus arrive et votre vie tout entière maintenant est scandée par des occurrences, par des lectures de ce qui se passe, etc. La ville devient, Paul Virilio autrefois avait signé un livre qui s'appelait Ce qui arrive, mm-hmm. La ville devient tissée de tous ces événements qu'on lit sur les cadrans, les écrans, etc. etc. Et finalement l'information c'est aussi quelque chose qui arrive. Donc effectivement, et ça arrive dans le temps. Mais en même temps, je dirais, l'espace est transfiguré.
Mais en quoi elle est transfigurée? Moi, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. J'ai l'impression que la ville, quand on la regarde, est-ce qu'elle a beaucoup bougé en 20 ans? Je veux dire, elle a bougé, évidemment, mais ce n'est pas l'information, ce n'est pas le numérique qui l'a bougé ici.
D'abord, il est un peu trop tôt, pour une raison simple, il est un peu trop tôt pour savoir si la forme des villes... C'est vrai que la forme des villes, pour l'instant, n'a pas beaucoup évolué.
Alors
mais
que
par contre, quand vous promenez vite, dans une rue, le fait déjà aujourd'hui de vous promener dans une rue avec un cadran, avec un écran, et dans laquelle vous recevez toutes sortes d'informations qui réinterprètent pour vous l'espace, qui vont vous dire par exemple où sont vos copains, vous avez toutes ces applications, vous pouvez être localisé presque en continu par vos amis, vous pouvez rentrer des systèmes de préférence et à ce moment-là vous dire à tel endroit, vous n'êtes pas très loin d'un truc qui vous intéresse, etc. L'espace se trouve transformé. On a aussi complètement pris l'habitude, c'est un truc très bête, mais on a besoin d'une information sur même un monument qu'on voit, ou Dieu sait quoi, et on accède à cette information directement grâce à cette réalité. Je dirais l'espace est augmenté par toutes ces informations, etc. Et du coup, il change de nature. D'une certaine façon, il s'intensifie. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qu'on pourrait se poser sur le très long terme, c'est qu'aujourd'hui, pendant très longtemps, la question de se repérer dans la ville, c'était une question pour laquelle on faisait de la composition urbaine, on faisait des boulevards, des places, etc. Il est possible qu'un jour, on ait moins besoin de composition urbaine parce qu'on a de plus en plus de façons de se repérer dans la ville sans forcément d'avoir recours à des ordres spatiaux traditionnels.
Donc on reviendrait à la forme d'une ville plus désordonnée, plus...
Disons, on n'est plus obligé... On n'a plus ce besoin vital d'ordre. Donc on pourrait très bien vivre, vous pourriez vivre dans une ville un peu néo-médiévale ou avec des jardins un peu mystérieux, etc. Parce qu'il y a toute une lisibilité nouvelle. Ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que d'une certaine façon, la carte devient la ville et la ville devient la carte aujourd'hui, ou les multiples cartes que fait le numérique. Et l'espace, c'est ça.
Je comprends pas, faut vous expliquer ça.
Quand vous vous promenez aujourd'hui, vous vous promenez à la fois dans l'espace physique et dans une espèce de carte permanente. Prenez même le petit point bleu sur le iPhone. Vous vous promenez dans les deux espaces et d'une certaine façon, il commence à y avoir, vous savez, il y a cette vieille histoire de Borges avec la carte de l'Empire à l'échelle 1. Vous avez l'histoire moins connue de Lewis Carroll dans Sylvie et Bruno, où quelqu'un dit on avait fait une carte à l'échelle du territoire, mais elle cachait le territoire et du coup les cultures ne poussaient plus parce que ça faisait de l'ombre. Alors du coup, c'est on a pris la décision de prendre le territoire comme carte. Je dirais que d'une certaine façon, aujourd'hui, le numérique, la ville devient sa propre carte.
Nathalie Duboucher, vous comprenez, vous, depuis votre point de vue de plus d'industriel, si j'ose dire. Enfin,
non, mais pour donner des exemples sur l'espace réel qui se conjugue avec un espace virtuel, qui est enrichi en fait par l'espace virtuel. L'exemple qu'on évoquait tout à l'heure de la ville de Sarlat, par exemple, qui a mis des tags et des flashcodes pour pouvoir mieux effectivement expliquer ces monuments sans avoir à effectivement mettre des panneaux partout. Donc là, ça, c'est une évolution, je dirais, de l'espace qui me semble tout à fait intéressante et qui conjugue du virtuel associé à du réel. Donc je me promène dans la ville et en même temps, en passant mon téléphone, je vais avoir beaucoup plus d'informations sur le réel dans mon téléphone. L'autre point important, vous parliez tout à l'heure du temps, pour moi c'est l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on recherche de plus en plus, et on le voit dans nos nouvelles générations, l'instantanéité et également la prédictibilité.
Ouais, c'est
ça qui m'intéresse. Ouais, quand je suis à mon arrêt de bus, c'est pas forcément de savoir que le bus aura du retard, mais c'est surtout de savoir qu'il est là dans 7 minutes ou dans 10 minutes, parce que je peux me réorganiser. Et donc en permanence, je réorganise ma vie, mon emploi du temps dans cette instantanéité. Alors, est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien ?
Du coup, je me posais
c'est
la question de la flânerie. Est-ce qu'on flâne encore dans une ville où on peut toujours savoir où on est ?
Écoutez, je vais être la première à vous dire ça, c'est qu'il faut de temps en temps couper son téléphone.
Ah !
Voilà, c'est peut-être pas très politiquement correct ce que je vais vous dire, mais je pense, pour voir aussi nos jeunes générations, que nous savons revenir dans la vie réelle et nous savons couper nos téléphones. Quand vous prenez les jeunes générations, ils ont beaucoup de mal à décrocher. Ces outils-là leur sont très utiles, mais il faut faire attention qu'ils sachent rester dans la vie réelle.
Ouais, moi, je pense deux choses. La première, c'est que le temps n'a jamais tué l'espace. En 1850, lors des premières expositions sur le télégraphe, il y avait un journaliste à Washington qui écrivait « L'espace est mort », etc.
Ah, bah,
l'espace est toujours là. Regardez le prix de l'immobilier, il n'a pas cessé de flamber. Ça. Et le prix de l'immobilier, c'est directement lié au lieu, etc. Et donc, l'espace n'est pas mort. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Moi, il me semble que la flânerie existe toujours. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des dérives numériques dans la ville. Vous avez des gens etc. C'est quand même une pratique de plus en plus. Moi, je crois qu'il faut non seulement arrêter parfois son téléphone, mais je ne suis pas sûr qu'on veuille toujours vivre dans l'immédiateté, parce que ça devient un esclavage. Comme pour ceux qui ont été des grands fumeurs, regarder son email, c'est l'équivalent de la cigarette du grand fumeur. Et des fois, il est bon de passer une matinée sans regarder ses emails. Et dernier point, peut-être que la ville de demain, de même que dans la ville traditionnelle, on gérait des effets de transparence et d'opacité, il va falloir gérer aussi des endroits où on n'est pas connecté.
Parce que organiser la déconnexion.
Organiser la déconnexion et pas uniquement la connexion.
Ça
aujourd'hui,
commence, hein, déjà, des
aujourd'hui
endroits
on
blancs.
Est complètement obsessionnel, l'idée de mettre partout sans cesse plus de connexion. Mais en fait, les endroits où on n'est pas connecté, ça va devenir aussi important.
Donc tout de suite, enlever le Wi-Fi tout de suite dans les transports en commun, Nathalie Duboucher.
La question se pose pour l'avion.
Ça correspond quand même concrètement à des demandes des citoyens. Ouais. Nous on n'est pas là du tout pour parler technologie. Les technologies, c'est uniquement des outils qu'il y a en dessous pour répondre à des besoins. Vous avez des citoyens qui demandent de plus en plus le Wi-Fi dans les espaces publics, dans les modes de transport. Ça, c'est un fait. Et c'est une demande qui va tout à fait croissant.
Mais je crois qu'il faudra moduler la demande. C'est-à-dire qu'il est évident, je crois qu'il ne s'agit pas de supprimer le Wi-Fi à l'échelle de quartier entier, mais il faut peut-être réfléchir à quels sont les lieux. Vous savez, bon, il y a des tas de lieux dans lesquels tout n'est pas permis.
Ouais.
Or, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très frappant. Les gens regardent leurs emails dans les circonstances les plus diverses et parfois, dans des circonstances, on ne devrait pas regarder son email.
Je me posais depuis le début de cette émission une question qui est que, avant même de concevoir des villes intelligentes, alors même si elles sont déjà largement en cours, mais disons de réfléchir à ce que ça pourrait être, une ville totalement intégrée, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas déjà se poser la question de savoir de ce qu'on fait des infrastructures technologiques existantes ? Je pense par exemple à ces questions des centres de données, ces énormes bâtiments qui accueillent des serveurs. Et alors, pour le coup, l'intégration d'information des centres de données dans les villes. Alors ça, c'est vraiment, s'il y a quelque chose qui n'est pas pensé, c'est bien ça. Ces bâtiments sont affreux, ces bâtiments dégagent une énergie absolument incroyable, dont alors on sait qu'on peut éventuellement la recycler, etc. Mais enfin, personne ne fait de grands efforts pour ça. Et je me dis, c'est assez drôle, ce paradoxe qu'il y a entre d'un côté, comme ça, des recherches hyper élaborées sur la ville intelligente, voilà, sur ce qu'on fait de la technologie dans la ville et tout, et de l'autre, une installation un peu sauvage des infrastructures technologiques dans les villes.
Parce que la vérité, c'est qu'on sait pas, c'est que la technologie produit, ça a commencé avec le chemin de fer. Vous avez ces immenses espaces au sortir des gares, en plein cœur des villes, où on marche pas, en fait. La technologie produit des no man's land. Les data centers ont tendance un peu à migrer. Mais cela dit, je crois qu'il faut se dire qu'il n'y a pas de progrès technologique pur. C'est-à-dire qu'il y a toujours des effets nuisibles en même temps. Rien n'est jamais 100% bon. Et je crois que la ville intelligente, elle va poser de multiples problèmes. C'en est, hein. Mais il y en aura d'autres. Vous savez, il y a eu ce chiffre qui a fait un peu mal, comme quoi aujourd'hui, la consommation d'énergie, si vous voulez, de toutes les activités de la toile, etc., c'est plus que la consommation d'énergie de l'aviation civile
à l'échelle de la planète. J'ai lu ça aussi.
Ça fait un peu mal.
Je crois que ça fait partie des transformations et des évolutions des secteurs. C'est vrai que le numérique n'existait pas sous cette forme-là il y a 15 ans. Hein. Donc maintenant, le numérique apporte énormément d'avantages. Ce que je voulais dire quand même par rapport aux data centers, c'est qu'il y a des investissements extrêmement importants dans des data centers de dernière génération qui sont conçus justement pour consommer le moins possible d'énergie. Donc il y a des efforts extrêmement importants qui sont faits là-dessus.
Tout de suite, le complément d'enquête de Thibaut Henton.
Attendez un instant, j'en ai pour une seconde. Il y a une question que je voudrais vous poser. Oh, c'est pas que ce soit très important.
Thibaut.
Vous datez la ville intelligente il y a une dizaine d'années, mais vous avez aussi parlé de la cybernétique. À un moment, vous inscrivez pas du tout cette ville intelligente dans l'histoire de la cybernétique après-guerre. Et du coup, dans quelle mesure ?
Si, dans le livre, je le fais. Je pense en fait qu'on est en fait. L'histoire complète est beaucoup plus longue parce que la société de l'information, elle est née probablement à la fin du 19e, au début du 20e. On a commencé tout d'un coup à avoir besoin de quantités massives d'informations pour faire fonctionner les entreprises, les villes, etc. Deuxième moment, l'ordinateur et les grands rêves de gestion rationnelle au moyen de l'ordinateur des villes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je dirais, il y a des tas de choses qui semblent une forme de replay d'utopie qu'on a connue à l'époque cybernétique. Par exemple, quand Rio a fait son contrôle, son centre opérationnel intégré, vous avez la météo, l'état du trafic, etc., la surveillance de police, ça fait beaucoup songer au PC opérationnel dont rêvaient les cybernéticiens.
Mais il y a eu des réalisations concrètes de ce genre d'utopie, par exemple dans le Chili d'Allende au début des années 70.
Oui, absolument, j'allais le mentionner.
Est-ce que chez Orange, on s'inspire d'Allende?
Écoutez, en tout cas, moi, à mon niveau, ce n'est pas forcément une référence, mais...
Vous voyez ce que c'est, Cybercine, non?
Non, mais nous, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on est en contact tous les jours, hein, donc pas d'Aliendé, mais des gens de la ville, des acteurs comme la SNCF, EDF, qui ont, je peux vous assurer, des soucis concrets pour étendre leur service, pour l'optimiser. Et tout ce qu'on essaie de faire, c'est modestement, mais avec beaucoup d'enthousiasme, d'essayer de leur dire, voilà, quel type de solution pourrait vous aider. Donc, on répond régulièrement à des appels à idées, on répond à des appels d'offres, on est dans le quotidien,
la
fabrication. Et comme vous l'avez très bien dit, la ville intelligente, finalement, c'est une palette de solutions qui vont intervenir
Mais
dans tous ces secteurs.
C'est une palette de solutions pour un consommateur, pas pour un citoyen.
C'est les deux à la fois. Quand vous êtes effectivement un client de la SNCF, vous êtes consommateur, vous avez envie d'avoir le meilleur parcours de transport possible. Peut-être vous avez envie de pouvoir vous divertir dans le train. Et là, la SNCF essaie aussi de se différencier par rapport à ses futurs concurrents qui vont arriver en 2019 sur les voyageurs pour effectivement leur proposer quelque chose de différenciant.
Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est fidèles. Excusez-moi de vous couper, mais c'est juste que là, depuis 40 minutes, on parle de l'idée de changement de l'infrastructure. En gros, de l'infrastructure technologique de la ville. Mais l'infrastructure, c'est aussi des rapports de production. Enfin, désolé d'être un peu
marxiste.
Et du coup, je voudrais savoir dans quelle mesure ce changement de l'infrastructure-là peut opérer ou dans quelle mesure on pense ce changement par rapport à un changement de la superstructure, un changement politique.
Je crois qu'il faut être clair. Le fait qu'Orange soit représenté, c'est vrai que le débat a plutôt dérivé du côté finalement de l'offre des grandes entreprises, des systèmes institutionnels, etc. Je crois qu'il y a plein de choses grassroots. Il y a OpenStreetMap, Fix My Street. Il y a tous ces mouvements.
Et puis des villes comme Rennes où il y a des mouvements très locaux,
etc. Et je crois que en fait la ville intelligente, c'est la rencontre entre des propositions qui ont toujours quand même un petit côté technocratique, qui sont celles des grands appareils, même quand ils prétendent être complètement démocratiques. Et vous parliez d'Alien Day, CyberScene, c'est super technocratique. C'est la rencontre entre ça et des mouvements plus grassroots qui, eux, veulent plutôt promouvoir la spontanéité, etc.
Et intelligente, ça ne vous gêne pas cet anthropomorphisme ?
Non, parce que d'abord, l'intelligence va peut-être qu'on est à la veille d'intelligence non humaine. En fait, moi, je pense qu'il faut prendre ville intelligente littéralement. Je pense que ça va exister très vite.
En tant qu'un avion extraterrestre, ce serait vraiment le scoop du début de l'année.
Non, mais non humaine en tout cas. Des intelligences non humaines, je pense qu'on n'en est plus très loin et qu'on aura besoin dans le numérique d'intelligence artificielle.
Merci beaucoup à tous les deux, Nathalie Leboucher et Antoine Picon. Vos références sont sur la page de Place de la Toile, une page où vous pouvez aussi télécharger cette émission pendant un an et la réécouter pendant 1000 jours. Nous, on se retrouve samedi prochain, 18h10, pour un nouvel épisode Place de la Toile. Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique, c'était Emmanuel Morse-Duncan, réalisation Vanessa Nadjar. Il est 19h sur France Culture. Tout de suite, vous retrouvez Elisabeth Tchungi sur Écoute. Bonne soirée, bonne semaine et puis encore une fois, bonne année.